Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir dans cette émission. Nous allons parler d'éducation. En régie technique, c'est Tristan, notre stagiaire. Notre invité du jour, vous le connaissez puisqu'il intervient sur nos ondes régulièrement avec ses comparses Dominique Desmichel, Gabriel Seban et Olivier Lostis. C'est Pascal Lorest. Pascal Lorest, qui est docteur en ethnologie, ethno-méthodologue, diplômé d'État en ingénierie sociale, auteur de nombreux ouvrages, directeur de collection aux éditions L'Harmattan. Vous avez été éducateur, professeur, vous êtes vraiment un spécialiste de l'éducation, mais avec vous, on va parler de quelqu'un qui vous ressemble un peu, qui s'appelle Franck Lombard, auquel vous avez consacré toute une série de livres. C'est un personnage récurrent que vous avez suscité de votre propre chair, on va dire, puisqu'il vous, quand je dis qu'il vous ressemble beaucoup, c'est-à-dire que ces aventures ont été les vôtres.
Oui, bonjour tout d'abord. Oui, en effet, donc Franck Lombard, c'est un personnage que j'ai fait naître afin de mettre en scène un certain nombre de réalités sociales d'une époque qu'on nomme aujourd'hui les Trente Glorieuses. Et après avoir fait un certain nombre d'ouvrages techniques ou ethnologiques, j'ai voulu parler plus directement et pour le grand public de cette époque, donc de 1962 jusqu'à 1990.
Jusqu'à 1990. Vous avez intitulé ces trois livres « Trilogie du jeu de vivre ».
Voilà.
Ça, alors, c'est intéressant, le jeu de vivre.
Oui, alors voilà, le jeu de vivre, parce que vivre, c'est un jeu et il n'y a pas de vie sans constitution d'une identité. Or, le jeu, J-E, ne peut advenir qu'en jouant. Et voilà, je bien sûr, c'est un clin d'œil à Schiller, et puis également à un grand psychiatre, Donald Wood Winnicott, qui dans Jeu et réalité parle de l'importance de l'espace transitionnel pour grandir. Et donc dans cette trilogie du jeu de vivre, eh bien j'ai fait naître Franck Lombard, qui est en quelque sorte un double. Donc alors c'est pas totalement autobiographique, car je convoque des scènes de ma propre vie et je les mets en image, si je peux dire, pour parler de cette époque, parler en fait des relations entre les parents et les enfants, parler des questions de socialité, de sociabilité, parler des questions de religion, parler des questions aussi de politique et de changement du monde.
Oui, et c'est l'occasion de mesurer justement à quel point les changements ont été profonds. On est dans une période totalement charnière, vous êtes d'accord?
Tout à fait, oui, tout à fait. Le monde aujourd'hui est très différent. À cette époque, il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de tablette. Et en fait, on se construisait aussi à partir de l'espace social et dans la relation très directe aux autres.
Oui. Alors, Franck Lombard, Pascal Lorest est né à Paris, c'est ça?
Il est né à Paris.
Dans quel arrondissement?
Il est né dans le 15e arrondissement.
Dans le 15e arrondissement.
Voilà, et donc très tôt, il découvre le monde avec sa maman, et il est en tricycle, il l'accompagne, il découvre le monde et il découvre Paris. Et si vous le voulez, je peux vous lire...
Un petit passage, oui, parce que vous allez nous lire des passages de ces livres qu'on retrouve, je m'empresse de le dire, évidemment, en librairie. Il suffit, je suppose, de les commander à l'Esperluette, voire même peut-être de les y trouver.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc Franck Lombard, là, a 3 ans. Sur les trottoirs, nous marchons dans un concert de bruit baroque. Bétonnière au ventre plein, marteau-piqueur au martèlement aigu. Klaxons effrénés des voitures, cris d'enfants sur le chemin de l'école, envolée de pigeons mi-effrayés, mi-effrayants, crissement de pneus sur le bitume surchauffé, sirènes excitées des ambulances, des camions-pompiers ou des voitures de police. À ces bruits hétéroclites s'ajoute une valse de couleurs évanescentes. Le bleu ciel d'une dauphine, le mauve d'une panhard, le noir d'une traction et le crème d'une 4 chevaux. Les paniers pleins des ménagères qui filent dans les rues, les bigarrures étranges des foules qui se font et se défont, se gonflent et se vident comme des ballons en caoutchouc. Et toujours les pigeons dans le bleu du ciel, dans le vert d'un square, sur le blanc d'un kiosque, sur le gris d'un trottoir. Au-dessus des bruits et des couleurs règnent les odeurs. Gaz d'échappement des voitures, fumée d'usine, déchets amoncelés dans des poubelles de fortune, caniveaux ruisselants drainant dans leurs eaux troubles des pourritures aux différents stades de la décomposition. excréments de chiens, de chats et de pigeons, clochards errant au hasard des rues, le manteau gonflé de purulence inscrivant dans leur passage une empreinte putrescente. Bouches de métro qui exhalent l'odeur souterraine d'un air confiné, parfums improbables des pissotières et autres vespasiennes où se mélangent vomissements et urines, âcres pestilences qui remontent du bitume les jours de pluie et taquine la cloison nasale, effluves échappées d'une boulangerie où le pain chaud et croustillant sort du four, senteur des fruits sur l'étal d'un épicier, et, les jours de marché, les fragrances des viandes, des poissons, des fruits, des pâtisseries, des fromages, des légumes apprivoisent les sens et réconcilient avec le monde. Les odeurs, les pestilences et les parfums s'associent, se combinent et s'agrègent pour dominer la ville. Nos marches sont rythmées par les bruits, les couleurs et les odeurs. Je me repère un peu plus chaque jour dans l'espace avec les sons et les mouvements, les lignes et les couleurs. J'aime ce quartier, à pied ou en tricycle, malgré la puanteur, la crasse des immeubles et l'agression sonore, et déambule avec ma maman, toujours vive et gaie.
Vos 500, c'était très ouvert lorsque vous étiez petit, vous écoutiez, vous regardiez et vous sentiez.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est le propre de l'enfance que d'appréhender le monde à partir de la sensorialité. Et d'ailleurs, les souvenirs s'incrustent dans la mémoire à partir des sens. Et donc, je commence les promesses du monde à partir des premiers souvenirs de ma vie. Et c'est chemin faisant donc, que j'aide Franck Lombard à se modeler et où je permets également au lecteur de comprendre l'essentiel des transactions humaines et notamment de l'enfant avec sa mère ou avec son père. Tout à l'heure, je vous lirai un passage avec le papa de Franck Lombard.
C'est votre mère qui a été la plus présente, la plus prégnante ?
Ah oui, c'est ma mère qui était la plus prégnante et quand j'avais 2 ans, elle me faisait tracer des lettres dans des cahiers. Et le goût que j'ai eu pour l'écriture et cette frénésie que j'ai d'écrire, eh bien, je la lui dois. Hein. Ouais. Si j'ai écrit à peu près 35 livres à ce jour, c'est elle qui m'a donné le goût du crayon dans la main et des belles lettres dans des cahiers qui étaient convoqués chaque jour pour un travail acharné.
La relation affective est importante dans l'apprentissage éducatif.
C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. La question des affects, c'est crucial. Et l'amour d'une mère pour son enfant, c'est fondateur, très clairement. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de vie non plus sans difficulté, sans violence, sans haine parfois. Donc, tout enfant est confronté à des émotions très différentes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les affects sont fondamentaux.
Alors, des choses ont... Quand je vous écoutais, je me suis dit que finalement, Paris n'était pas tellement changé que ça. Il y a toujours autant de voitures, toujours autant d'odeurs. Les clochards, on a tendance à les planquer un peu dans les recoins.
Oui, mais bon, ça a quand même beaucoup changé. En tout cas, le 15e arrondissement de Paris a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de destruction d'immeubles. C'est beaucoup moins crasseux. L'île Seguin, c'est plus la même chose. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. En tout cas, dans le souvenir qui est le mien de cette époque-là, c'est beaucoup moins populaire que ça l'était. Paris était populaire dans les années 60. Mes parents, mon père était ce qu'on dirait aujourd'hui un cadre moyen, ma maman ne travaillait pas. Bon, nous étions une famille moyenne, hein, comme on dit. Mais aujourd'hui, cette famille-là ne pourrait pas vivre dans Paris. C'est impossible.
Ouais. Ce qui a beaucoup changé aussi, évidemment, c'est le mode éducatif. Il y avait des obligations. Vous parlez, par exemple, de l'obligation qui vous était faite d'aller à la messe le dimanche. J'ai connu ça, moi aussi. Évidemment, impossible aujourd'hui de demander à un enfant d'aller à la messe s'il n'en a pas envie.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, donc moi, j'ai grandi dans une famille très, très pratiquante, très catholique. Mon père a fait ses études au petit séminaire. Hein. Il était en Bretagne à cette époque. Eh bien, c'était monnaie courante pour ceux qui voulaient faire des études. Et donc, j'y suis allé. J'étais pas toujours très motivé pour y aller. Voilà. Et parfois, je cherchais des prétextes pour me soustraire à cette obligation hebdomadaire. Mais en fait, je n'avais avait pas le choix, il fallait que j'y aille.
Il fallait y aller.
Voilà. Et si vous le voulez, je vous propose un petit passage.
Un petit passage, oui, parce que je crois qu'il y a un petit trait d'humour.
Voilà. Donc, en fait, je vais ce dimanche-là à la messe. J'ai 13 ans. D'un coup de pédale à l'autre, je me rapprochais de l'église et arrivais, posais mon vélo contre un arc-boutant. Je glissais l'antivol dans la roue arrière et la clé dans la poche, j'entrais dans l'église et m'assis au dernier rang. Patiemment, j'attendis la fin du sermon sur la joue qu'il fallait savoir tendre après avoir été frappé, sur l'impérieuse nécessité à endurer la souffrance, à l'accueillir même, pour enfin mériter le paradis, ce paradis qui appartenait au simple d'esprit. À mesure que la logique d'acceptation de son sort se déroulait par la bouche du curé, la somnolence me gagnait. J'avais envie de dormir. Alors, pour me secouer de la léthargie, je passais en revue le programme de ma journée. Après le repas, j'irai me balader en vélo du côté de Bièvre, où il me restait encore des endroits à découvrir. Puis, après cette balade, je descendrai dans ma chambre pour lire un livre d'Alexandre Dumas. La communion m'interrompit dans mon programme et j'allais chercher l'hostie. Ensuite, quelques formules bien ficelées, quelques chants, une bénédiction, et je me retrouvais dehors à l'air libre, déchargé du fardeau hebdomadaire. Mais, à l'endroit où s'était trouvé mon vélo, il n'y avait plus rien. Je n'en croyais pas mes yeux, plus rien. Stupéfait, je fis le tour de l'église, ne parvenant pas à imaginer un vol à cet endroit précis. Mais rien. Merde ! On me l'avait volé. Devant l'entrée, le curé s'entretenait avec des paroissiens. J'allais à lui et interrompis les conversations. « Monsieur le curé, on m'a volé mon vélo. Je l'avais attaché là. Il était contre le pilier. »« Comment ? On a volé ton vélo, ici, devant la maison de Dieu, le Père Tout-Puissant ?» J'en suis profondément désolé. As-tu averti tes parents ? Non, monsieur le curé, il faut que je le retrouve, mon vélo, je ne peux pas revenir sans. Mais je n'y peux rien, mon enfant. Je peux t'exprimer ma profonde consternation en apprenant ce vol, mais je n'ai aucun moyen contre tes voleurs. On ne respecte plus le sacré, même devant la maison du Tout-Puissant. Peut-être, assurément, mais moi, que puis-je faire pour retrouver mon vélo ? Je te conseille de t'en remettre aux gendarmes, qui, sur ce plan, sont bien plus compétents que moi. Moi, hélas, je n'y peux rien. Je jure sur ma tête de ne plus mettre les pieds dans une église de ma vie, tant que mon vélo ne réapparaîtra pas. À quoi il me sert, Dieu, s'il ne peut même pas empêcher un vol devant ces églises ? Dis-je excédé en envoyant tout balader, curé, brebis et divinité.
Donc c'était la vraie prise de conscience que Dieu n'était peut-être pas le tout-puissant qui pouvait en tout cas pas récupérer les vélos volés.
Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait, ça a été une crise de foi. Mais voilà, et puis un prétexte peut-être aussi pour faire valoir désormais mes conceptions d'adolescent, hein, et peut-être aussi d'exprimer d'autres positions par rapport à mes parents.
Ouais. Qu'est-ce qui a pris finalement la place, du coup, qui était dévolue à l'enseignement de l'Église ? D'autres valeurs vous sont apparues ?
Non, je crois qu'en fait, toutes les valeurs qui sont restées les miennes à ce jour, même si je ne suis pas un catholique pratiquant, toutes ces valeurs en fait datent de toute façon de cette époque, de l'éducation que j'ai reçue. Et si j'ai cessé d'aller à l'église à ce moment-là, je restais dans ma chambre à lire Émile Zola, par exemple, et à être extrêmement attentif aux misères du monde. Et d'ailleurs, une des raisons qui prévaut à mon intention d'écrire, c'est aussi d'être témoin de tout ce qui peut se passer et des nécessités à trouver des solutions pour tenter de soulager un peu les gens qui sont dans des difficultés sociales, hein, sociales, familiales, etc. Donc voilà, alors je me concentre plus sur les problématiques de la jeunesse, mais je suis intéressé à toutes les autres difficultés, notamment l'errance, hein, l'errance des adultes également, par exemple.
Ouais. Comment vous en êtes finalement venu à l'éducatif ? Franck Lombard a suivi quelles études alors ?
Alors Franck Lombard, donc il y a d'autres livres où je raconte son adolescence. Il a eu une adolescence un peu troublée, on va dire. Hein. Il a été loubard, Franck Lombard. Hein. Et donc blouson noir, chef de bande à un moment donné. Il aurait pu très mal tourner. Et sans doute, voilà, les valeurs acquises durant l'enfance ont eu aussi leur effet. Et donc après un bac scientifique tout de même. Hein, donc j'ai pas, disons que moi quand j'étais adolescent, j'ai connu des moments un peu difficiles en seconde, première, mais en terminale je me suis mis à travailler. J'ai eu le bac, hein, j'ai eu un bac. Et ensuite j'ai fait des études de mathématiques. Hein, je suis devenu quelqu'un de sérieux. Donc, diplômé en mathématiques, je suis devenu professeur. Donc, comme on a du temps quand on est professeur, eh bien, j'ai...
Attention à ce que vous dites, on va recevoir des appels.
Peut-être, mais bon, moi, ça m'a permis de faire un DESS en sociologie, ensuite un doctorat en ethnologie, de faire une formation d'éducateur spécialisé, puis ensuite de changer. Après 13 ans d'enseignement, voilà, je suis devenu, en qualité d'ethnologue, je suis devenu un spécialiste de certaines questions sur les conduites juvéniles. Et les problématiques sociales qui en découlent.
Oui. Ah oui, parce qu'on a l'impression que l'ethnologie, ça concerne voilà, les peuples primitifs, c'est-à-dire on est un ethnologue, on va en Afrique et on étudie les mœurs et coutumes des tribus les plus reculées, mais non, votre champ de réflexion, d'action, c'est la France contemporaine ?
Alors bon, moi je me suis intéressé par exemple à des questions aussi par exemple de socialité aujourd'hui chez les peuples amérindiens, notamment chez les peuples iroquoiens, et donc avec les spécificités de peuples descendants des Hurons qui sont matrilinéaires, hein, donc à Wendate au-dessus de Québec, et la différence avec un peuple cousin on va dire qui est celui des Mohawks à Kanawake au sud de Montréal, qui est là un peuple de descendance patrilinéaire. Et donc, en fait, j'ai travaillé sur des questions de ce type ou la question aussi des castes en Inde, hein, donc dans le Tamil Nadu, ou bien des questions liées aux arts martiaux, oui, notamment au karaté au Japon.
Oui, j'ai oublié de le dire hein, en ouais. Vous présentant, c'est que vous êtes un karatéka depuis fort longtemps. Vous êtes ceinture noire
Quatrième Dan.
Donc, faut pas vous chercher des noises. Vous avez commencé le karaté lorsque vous étiez un blouson noir, adolescent, ou non, pas du tout?
Non, j'ai commencé un peu plus tard, mais j'ai commencé à faire du judo, j'avais 5 ans.
D'accord.
Donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport, voilà. Donc, j'ai commencé le karaté un peu plus tard.
Il fallait se faire respecter dans le 15e à l'époque
hein. Ben, en région parisienne, ensuite, oui, parce que mes parents ont déménagé en 67. Pour aller en banlieue sud de Paris. Et donc, oui, il fallait se faire respecter. La violence a toujours été importante dans les banlieues parisiennes. Oui. Hein, et elle ne date pas de ces dernières années. Hein. Oui. Donc, oui, c'était très présent à l'école, dans les cours de récréation, à l'extérieur. Donc, oui, il y avait beaucoup de violence. Mais moi, je suis quelqu'un de très pacifique. Je suis Saint-Omar 4e Dan, j'enseigne le karaté, mais je suis quelqu'un qui cherche à régler les mots MAUX avec des mots MOTS.
Ouais.
Mais enfin, c'est vrai qu'en ethnologie, ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup, c'est de travailler quand même dans notre société sur l'observation et le règlement des problématiques adolescentes.
Ouais. Ils vont bien, nos adolescents, aujourd'hui? Ils vont mal? Tout dépend du milieu dans lequel ils évoluent.
Bon, je pense, si on s'en tient aux chiffres, les adolescents vont plutôt bien. Hein. Donc, 85% des adolescents vont plutôt bien et trouvent dans leur milieu familial les ressources nécessaires pour grandir. Hein. Les ressources, pas simplement économiques hein, ou financières, mais aussi affectives. Bon. Mais pour à peu près 15% des adolescents, les difficultés sont réelles et le soutien des familles n'est pas toujours au rendez-vous.
Ouais, elles sont de quel ordre ces difficultés? On se doute qu'il y a la drogue, on peut le voir aujourd'hui un peu partout. Il y a les addictions aux jeux vidéo, il y a le problème de la violence, peut-être aussi, je me disais tout à l'heure en parallèle, vous êtes allé à l'église et puis après l'après-midi vous lisiez. Bah, aujourd'hui les jeunes ils vont plus à l'église et si j'exagère un peu je dirais qu'ils lisent plus. Il y en a qui lisent bien évidemment, mais
oui, alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre-là chez Chronique Sociale à Lyon, Construire la relation éducative, parce que la manière dont les adolescents vont se ressentir à 13, 14, 15, 16 ans, c'est aussi corrélatif à la manière dont les parents ont construit leur éducation. Et donc c'est très important aussi quand l'enfant a 2, 3 ans de lui dire non, tu ne dois pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ceci, oui, tu dois respecter tel et tel cadre. Et le cadre, c'est les parents qui l'élaborent. Hein. Et puis au-delà, quand l'enfant grandit, tous les autres adultes, hein, les enseignants, leurs éducateurs dans des clubs sportifs, etc. Et nous tous, les adultes, avons une responsabilité responsabilités pour aider les enfants à grandir. Donc, si les enfants ne trouvent pas dans leur première enfance suffisamment de capacité d'attachement par les adultes qui les éduquent, hein, et à commencer par la maman, hein, la maman qui, dont l'attachement pour l'enfant va être fondateur. Donc si les enfants ne trouvent pas ces ressources-là, ils vont grandir en développant un certain nombre de problématiques. Donc la première des choses, je dirais, oui, c'est de bien comprendre quand on est adulte que de dire non à son enfant, ce n'est pas risqué qu'il cesse de nous aimer. Au contraire, dire non à un enfant et lui faire comprendre les raisons pour lesquelles on lui dit non, c'est la meilleure des façons de l'aider à grandir. Hein, ouais. C'est ce que d'ailleurs Lacan disait. Jacques Lacan disait pour que l'enfant à l'âge de 6 ans, à peu près 5-6 ans, puisse porter le nom du père, N-O-M, faut-il encore qu'il ait intégré le nom du père, c'est-à-dire le nom N-O-N, c'est-à-dire l'interdit fondamental qui est pour les psychanalystes la question de l'interdit de l'inceste, évidemment. Ouais.
Quand on n'a pas dit non à son enfant quand il avait 5 ans, on peut encore lui dire non quand il a 15, 16 ou 17 ans. C'est plus difficile.
Ça va être beaucoup plus compliqué, hein, c'est sûr. Bon, là, ça va être difficile sur vos ondes de développer ces questions, mais on sait très bien qu'à l'adolescence, les rejets des conflits oedipiens vont se faire sur des bases qui seront celles du jeu de ces conflits dans la petite enfance, à 2 ans et demi, 3 ans. Donc il est extrêmement important de d'avoir une vision quand on est parent et d'être attentif dès les premiers moments de la vie de l'enfant. Et c'est pour ça que par rapport à mon personnage Franck Lombard, je le fais évoluer dès sa petite enfance pour montrer aussi quelles seront ensuite les ressources et les compétences sur lesquelles il va pouvoir se reposer pour construire son insertion sociale et puis ensuite son insertion professionnelle.
Ouais. L'insertion professionnelle, l'insertion sociale est quand même... Vous avez le sentiment qu'elle est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'a été pour Franck Lombard dans les années 80 ou...
Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que... En fait, Franck Lombard évolue dans les années 80. Il y a déjà du chômage et on parle déjà de crise économique. Elle est déjà là, cette crise économique, et c'était déjà difficile. Alors aujourd'hui, certes, les choses ne sont pas simples. Elles ne sont toujours pas simples, mais voilà. Je pense aussi que dans la manière qu'on a de considérer la jeunesse et la manière qu'on a aussi de maintenir les jeunes adultes sous dépendance, ça a un effet extrêmement délétère. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on a 18 ans, on est majeur, on a la capacité juridique, on est majeur, mais c'est pas pour autant qu'on est considéré comme un jeune adulte, et ça, c'est très déplorable. Je pense qu'il faut admettre que à partir de 18 ans un jeune adulte est en capacité de s'inscrire socialement et professionnellement et de faire vivre cela dans son esprit en tant que parent mais aussi en tant qu'adulte. Eh bien c'est permettre de faire comprendre à ce jeune adulte en fait qu'il a notre confiance.
D'accord. On va parler clairement, il faut lui lâcher la grappe, c'est ça, quand il a 18 ans ?
Tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes propres enfants. Et ça ne va pas de soi, mais c'est extrêmement positif. Et on se rend compte que les enfants sont d'autant plus en capacité de s'inscrire socialement qu'on les y autorise.
Ouais. Il y a le dernier ouvrage, donc c'est le dernier volume qui vient de paraître.
Voilà.
Donc c'est Franck Lombard dans les starting blocks. Et à partir de quoi c'est terminé ? Votre personnage, comment il vire à la fin ?
Alors, celui-là, c'est celui qui a été publié en dernier lieu. Et là, en fait, on suit Franck Lombard dans son insertion professionnelle.
Un petit extrait, ce sera le dernier ? Est-ce que c'est possible ?
Oui, on peut lire un petit extrait, ça va être
Ça va être trop peu.
Ça va être, oui, difficile de parce que j'avais pensé un petit extrait, mais concernant en fait Franck Lombard qui rencontre Guy Vic et Luc Decaune dans une fête du livre.
Parce que Guy Vic et Luc Decaune, deux poètes. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, ma première fête du livre, puisque je suis au départ poète, j'ai rencontré donc en 1984 à la fête du livre de Palaiso, Guy Vic, Luc Decaune.
Luc Decaune qui était le neveu de Paul Éluard, il faut quand même le dire à nos auditeurs.
Hein, ouais, quelqu'un de remarquable. Et puis, y avait aussi Michel Tournier. Donc avec qui j'ai eu le plaisir de d'échanger. Et alors donc ce passage qui est un peu trop long là, ça fait 4 pages, raconte les aventures de Franck Lombard avec ses auteurs.
Personnages.
Et là c'est totalement autobiographique. Je raconte donc la manière dont j'ai échangé avec eux sur un plateau, d'ailleurs un plateau radiophonique. Et il y a eu des échanges très très vifs. Et parce que lorsque j'étais jeune, je défendais mes idées bec et ongles.
Et Guy Vic aussi, hein, évidemment, qui était un membre éminent du Parti communiste.
Voilà. Et donc, en fait, c'était fort sympathique, mais on a eu des démêlés. Alors, moi, j'avais 22 ans et eux, ils avaient 70 ans passés déjà à l'époque. Et ça a été extrêmement formateur pour moi. Voilà. Donc cet ouvrage est très drôle et montre, en fait, mes premiers pas, moi, dans l'enseignement. Alors, à l'époque, j'ai fait le choix d'enseigner avec des CPPN, donc ce qu'on appelait des classes pré-professionnelles de niveau, donc des jeunes en difficulté avec les études, et donc j'essayais avec une équipe éducative motivée de mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants. On a emmené donc des jeunes de Haute-Marne, on les a emmenés à Paris au théâtre, voir des spectacles, etc. Et on faisait donc de la pédagogie in situ. Avec ces jeunes et pour tenter de leur donner goût à la culture et aux études. Voilà. Et alors vous dire quand même que en 2018 il y a la dernière trilogie de Franck Lombard qui va paraître, ça s'appelle Une vie à crédit avec un sous-titre Ethnographie du basculement des mondes. Donc, ça se passe entre 86 et 90.
Là, le monde a basculé.
Et voilà, Franck Lombard, donc là, a entre 25 et 28 ans. Il va découvrir toute l'Europe. Il va aller jusqu'en Turquie. Il va être présent sur le Nebrudag, au-dessus de l'Euphrate, au moment du début de la guerre du Golfe entre la communauté internationale et puis l'Irak.
Et c'est le début de ce qu'on sait.
Exactement, voilà. Et donc, je parle aussi de la chute du mur, la fin du communisme, etc.
Et bien, on en reparlera quand ce livre paraîtra. En attendant, eh bien, vous pouvez évidemment vous procurer j'appelle ça les aventures de Franck Lombard. C'est la trilogie du jeu de vivre à la librairie L'Esperluette si on habite Chartres et dans les autres librairies du département.
Voilà, et sinon sur Internet, aucun problème.
Aucun problème. Merci beaucoup Pascal Leras, et puis on se retrouve très bientôt dans Point de vue. Hein.
Voilà.
Évidemment. Excellente fin de journée à toutes et à tous, et merci à Tristan à la technique.